Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le foot, la Ligue 1 en France. Et Lille s'est imposé 3-0 vendredi contre Lens et a 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain qui joue ce dimanche. Écoutez le capitaine de l'équipe de Lille, José Fonte, sur RFI.
On est content avec la performance, avec l'attitude, avec la concentration, le focus. Et on a deux matchs jusqu'à la fin. C'est pas fini, on le sait. On est content pour le supporter aussi parce qu'on sait l'importance de ce match pour tout le monde. Mais la concentration, c'est sur les deux derniers matchs. C'est le plus important de la saison.
Et hier, Lyon a écrasé Lorient 4-1. En Angleterre, Manchester City a joué contre Chelsea en avant-première de la finale de la Ligue des Champions. Et c'est Chelsea qui gagne 2-1. Philippe Auclair pour RFI.
Pour combien de temps, on ne sait pas, mais bon, je vous avouerai très franchement, Christophe, que regardant la feuille de match de Manchester City avant cette rencontre, je me demandais, mais à quoi joue Pep Guardiola? Parce que, en fait, depuis le début de la saison, Pep Guardiola est en fait quelqu'un qui joue de ses équipes de manière relativement rationnelle, à savoir que les choix parfois particuliers qu'il avait fait dans le passé, il ne les fait plus. Mais là, il avait mis l'équipe B. J'ai pas d'autre mot pour définir ça, alors que ça pouvait être le match du titre. Il avait mis en effet des joueurs que l'on ne verra pas lors de la finale de la Ligue des Champions. Et ma foi, ils ont payé le prix. Et donc, ils ont été battus 2-1 par cette équipe de Chelsea. Excellente opportunité pour cette équipe des Blues qui se place maintenant en troisième position du championnat d'Angleterre, alors qu'ils n'ont plus que 3 matchs à disputer dans ce championnat. Mais une équipe de Manchester City qui ressemblait très très peu à celle que l'on a vue face au PSG et à celle que l'on verra également en finale de Ligue des Champions.
Le Bayern Munich, champion d'Allemagne, comme nous l'explique Marie-Amélie Mott pour RFI.
31 titres de champion d'Allemagne, le Bayern Munich fait preuve d'une longévité exceptionnelle au sommet du foot allemand. 9 titres remportés depuis 2013 et un dixième dans le viseur l'an prochain pour battre le record de la Juventus Turin. C'est l'objectif déjà fixé par le futur président Oliver Kahn. Mais les Munichois peuvent prendre le temps de savourer ce nouveau titre. 4 défaites seulement cette saison et surtout 92 buts marqués en 32 journées. Meilleure attaque européenne. Une attaque portée par l'incontournable Robert Lewandowski. Encore un triplé inscrit contre Mönchengladbach ce samedi. 39 buts pour le Polonais en Bundesliga, il n'est plus qu'à une longueur du fameux record de Gerd Müller et ses 40 buts en 1972. Saison maîtrisée en championnat donc, mais grande déception en Ligue des Champions. Le Bayern, tenant du titre, s'est fait éliminer par le PSG en quart de finale. L'effectif va maintenant se renouveler avec les départs annoncés de Jérôme Boateng et David Alaba notamment. Et surtout l'entraîneur Hansi Flick va laisser sa place à celui du RB Leipzig, Julian Nagelsmann. Il a seulement 33 ans et on le présente comme l'un des meilleurs techniciens de sa génération.
La finale de la Ligue Europa sera disputée entre Manchester United et Villarreal. Et puis la nouvelle que Neymar reste au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Explication d'Olivier Pron pour RFI.
Les négociations ont été longues, sans doute pour des histoires de gros sous, mais l'optimisme affiché par Neymar ces dernières semaines ne laissait guère de place au doute. Arrivé à Paris en 2017 pour la somme toujours record de 222 millions d'euros, le Brésilien devrait donc continuer à y jouer encore 4 ans, 3 de plus que prévu initialement. Il se dit que pour cela, le Ney, comme on l'appelle, aurait consenti à une baisse de salaire, mais celle-ci pourrait être compensée par des primes d'objectifs extrêmement conséquentes, notamment celle en cas de victoire en Ligue des Champions, raison pour laquelle les dirigeants parisiens étaient allés chercher l'attaquant au Barça il y a 4 ans. Depuis, s'il a enflammé la Ligue 1, on ne peut pas en dire autant de l'Europe. Brillant mais dilettante, parfois génial mais surtout fragile. 15 passages par l'infirmerie du club depuis son arrivée et seulement 112 matchs joués sur 212 possibles. Je suis heureux ici, très heureux. Ça a beaucoup changé. Suffisamment pour calmer ses envies de départ qui avaient agacé, comme ses caprices, les supporters parisiens il y a 2 ans. À 29 ans, le champion olympique 2016 veut donc s'inscrire dans la durée, finir pourquoi pas sa carrière à Paris et surtout continuer à rêver plus grand, comme dit le slogan du club. Autrement dit, gagner enfin la Ligue des Champions.
On passe au tennis avec les Masters 1000 de Madrid, avec la finale des dames remportée par Arina Sabalenka, la Biélorusse, contre l'Australienne Ashleigh Barty. Ashleigh Barty qui s'est inclinée en 3 manches. Chez les messieurs, il y avait les demi-finales hier avec la victoire de l'Allemand Alexander Zverev contre l'Autrichien Dominic Thiem en 2 manches, 6-3 et 6-4. Et Matteo Berrettini, l'Italien, se qualifie pour la finale en éliminant le Danois Casper Ruud en 2 manches, 6-4 et 6-4. On passe au cyclisme, le Tour du Rwanda qui prend fin ce dimanche. Et hier, la 7e étape, un contre-la-montre de 4,5 km dans les rues de Kigali. Précision de Christophe Diremzian pour RFI.
L'édition du Tour du Rwanda 2021, elle vit ses dernières heures. À la veille de l'arrivée finale, l'Espagnol Christian Rodriguez a enfilé le maillot jaune à l'issue de la 7e étape, un contre-la-montre de 4,5 km autour de Kigali, remporté par son désormais dauphin au classement général, le Colombien Jonathan Restrepo, et Pierre Roland qui avait été le plus rapide à l'issue de la 6e étape. Le Français de l'équipe BNB Hotel vit son premier Tour du Rwanda qu'il dispute en guise de préparation pour le prochain Tour de France, et il a confié à notre correspondante Laure Boulard ses impressions sur cette étape d'hier et sur cette épreuve pour laquelle il a bien fallu s'acclimater.
J'ai eu du mal les premiers jours ici avec l'altitude, il a fallu s'acclimater. Et là, bon, bah, voilà, on est passé à 2 fois plus de 2000 mètres, mais ça allait beaucoup mieux que les premiers jours. Et voilà, dans l'échappée où on était, c'était pas super bien organisé. Il y avait des coureurs qui étaient à peu près au général. Donc j'ai dit à mon directeur, ok, je pense que je peux faire 100 km tout seul aujourd'hui. Au début, il m'a dit « Oh là là, c'est un peu loin » et j'ai dit « Si, si, j'y vais, j'ai rien à perdre » et voilà.
Et puis les équipes africaines apprennent beaucoup des écuries européennes. Explication de Simon Huperetz, ancien directeur sportif de la formation rwandaise, la direction technique nationale. Il est sur RFI.
C'est vrai qu'on a eu l'habitude de voir un Tour du Rwanda dominé par les équipes africaines, encore jusqu'à quelques années. Ensuite, une fois que le Tour est passé en 2.1 UCI, c'est vrai que des équipes plus fortes sont venues se mêler au Tour du Rwanda, ce qui est très bon pour le cyclisme africain, je pense. Ça doit en tout cas tirer le cyclisme africain vers le haut. Et bon, voilà, on voit que c'est des équipes qui sont plus organisées, qui sont aussi plus expérimentées dans la course que pas mal d'équipes ici en Afrique. Et je pense que c'est une très bonne chose. Il faut que les équipes locales ici au Rwanda, aussi qui est africaine, s'en inspire et fasse la course avec eux. Mais je vois bien un Africain, un Rwandais, revenir en forme sur les dernières étapes avec quelques jours d'entraînement dans les jambes. Je pense qu'on pourrait peut-être avoir quelque chose sur la dernière étape dimanche. En tout cas, je l'espère.
Et puis le Giro d'Italia s'est élancé hier. La première étape remportée par l'Italien Filippo Ganna. Petit aperçu de cette édition 2021 avec Matteo Cioffi pour RFI.
Les statistiques sur le cyclisme transalpin soulèvent des inquiétudes dans l'opinion publique. Depuis l'année 2000, seuls 4 Italiens ont gagné un classique. Dans la dernière décennie, Vincenzo Nibali a remporté le Tour de France Giro e Vuelta. Fabio Aru s'est imposé au Tour d'Espagne en 2015. Et Michele Scarponi, après le déclassement d'Alberto Contador, s'est adjugé le Giro en 2011. Mais en ce début de 2021, 0 victoire dans les rendez-vous qui comptent. Et c'est un signe que les choses ne vont pas bien. Mais alors, sur qui doit miser aujourd'hui l'Italie? Sûrement sur Filippo Ganna, 25 ans, champion du monde contre la montre en 2020, mais pas encore polyvalent. Les yeux sont également tournés vers Alberto Bettiol, vainqueur en 2019 du Tour de Flandre, qui s'est un peu égaré lors de ses 2 dernières saisons, mais il pourrait bien retrouver la forme très vite. À citer aussi Elia Viviani, prêt à s'imposer sur les arrivées au sprint, et Gianni Moscon, récent vainqueur de 2 étapes au autour des Alpes, mais considéré comme une sorte de Mario Balotelli du cyclisme. Un grand talent, mais un très mauvais caractère. Pourtant, sur le Giro, aucun Italien n'est donné favori. Même Nibali, qui prendra le départ après s'être plus ou moins rétabli d'une fracture du poignet, qui limitera sans doute ses chances de victoire à 37 ans. Le plus préoccupant, c'est que derrière lui, on ne voit pas pédaler un coureur italien qui pourrait prendre sa relève. Donc, seulement une question de temps, à condition de miser de nouveau sur les jeunes.
Enfin, le départ du Grand Prix d'Espagne de Formule 1, c'est ce dimanche avec Lewis Hamilton de Britannique en pole position devant Max Verstappen et Valtteri Bottas. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.